Chapitre 42. Vers 18h, Alice aperçoit Frank derrière la porte de la cour. L'air s'est brutalement rafraîchi et son souffle se transforme en nuage brumeux en quittant son corps.
« Salut !» dit-il en frottant ses mains l'une contre l'autre. « Il fait froid, non ?»«
Installe-toi devant le feu. Tu veux boire quelque chose ? Du thé ? Du vin ?»«
En fait... » commence-t-il avant de s'interrompre, les yeux baissés. « Je ne voulais pas te déranger. Je sais que tu es très occupé à cette heure-ci. Mais je voulais m'excuser, et aussi te remercier pour ce déjeuner incroyable. C'était vraiment très gentil. J'ai fait quelque chose pour toi. »
Il lui tend un morceau de Bristol de la taille d'une carte postale. Elle observe le papier un instant, regarde Frank, et baisse à nouveau les yeux sur ce cadeau.
« C'est toi qui as fait ça ?»«
Apparemment, je ne dessine pas trop mal. »
répond-il, l'air gêné.
« C'est super beau !»
Frank lui a donné un petit croquis de ses trois chiens sur la plage, avec le mot « merci » calligraphié en dessous. Il a utilisé des pastels secs pour colorer la mer derrière eux et les guirlandes lumineuses au premier plan.
« J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai utilisé ce que j'ai trouvé dans les tiroirs du studio. »«
Non, bien sûr que ça ne me dérange pas. Frank, c'est magnifique. T'es vraiment doué. »«
C'est assez bizarre, en fait. Je voulais absolument te donner quelque chose, mais je n'avais rien. » Et je sais qu'après-demain, on ne se reverra peut-être plus jamais. J'avais peur de ne plus avoir l'occasion de te rendre ce que tu m'as offert. J'ai vu un crayon, et tout à coup, j'ai ressenti l'envie irrépressible de dessiner. Alors je me suis assis et mes mains savaient exactement quoi faire. Au fur et à mesure, j'ai vu les chiens apparaître sur le papier. Je sais dessiner.
C'est indéniable.
C'est drôle parce que, juste avant, je venais de me souvenir de mon métier. Et ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec ça,
continue-t-il en montrant le Bristol du doigt.
« Et qu'est-ce que c'est ? »
demande-t-elle le souffle court.
« Devine. Comptable ? » ?»«
Non, mais pas très loin. Je suis prof de maths. »«
Non, c'est pas vrai. » »«
Si, dans un collège. » »«
Incroyable ! Où ça ? Tu te souviens du nom de l'école ? » ?»«
Non, mais je me souviens de l'uniforme. Des blazers noirs, des pulls noirs avec une bordure rouge. » Une cravate rayée de noir et de rouge, et un écusson avec un château et une sorte de tourelle.
Alice sourit.
Je t'imagine assez bien, en fait. Si on l'avait su plus tôt, tu aurais pu me rembourser en donnant des cours particuliers à Kay.
Je peux toujours le faire. Je peux commencer maintenant.
Alice rit franchement.
Je ne suis pas sûre que ça passe très bien comme idée d'activité pour un dimanche soir. Mais si tu reviens du commissariat demain, j'accepte volontiers.
Frank acquiesce. Puis soupire.
Je me suis souvenu d'autre chose, Alice.
Elle se mord la joue et attend avec angoisse qu'il lui annonce qu'il a une femme et des enfants.
Je suis à peu près sûre d'être célibataire.
Elle ne s'attendait pas à ça.
Pourquoi ?
Je me suis souvenu de mon appartement. J'ai vu l'intérieur, toutes mes affaires, et il n'y a pas la moindre trace d'une femme. Par contre, j'ai un chat, Brenda.
Alice sent un poids dans sa poitrine disparaître et son cœur irradie de bonheur. Cet homme, cet étranger si spécial, cette personne qui l'a fait se sentir comme elle ne pensait plus jamais l'être, est un prof de maths célibataire qui vit avec un chat.
« Brenda ?»
demande-t-elle en explosant de rire.
« Mais oui, c'est surprenant.
Je ne te le fais pas dire. »
« Et maintenant, je m'inquiète pour elle. »
« Brenda ?»
Oui. Je vis tout seul. Elle doit avoir faim.
Oh, ne t'en fais pas, les chats se débrouillent toujours. Elle trouvera quelqu'un pour la nourrir.
Tu penses ?
Son visage est tellement inquiet qu'Alice ne peut pas s'empêcher de le prendre dans ses bras.
Ne t'inquiète pas,
lui murmure-t-elle à l'oreille. S'il te coffre demain, j'irai la chercher chez toi et je la ramènerai ici, d'accord ?
Le chat d'un meurtrier ? T'es sûre ?
Je n'ai aucun problème avec les animaux de criminels.
Il se détache de son étreinte et la regarde intensément, de la tête aux pieds. Elle se sent complètement vivante.
« Tu es géniale, » lui dit-il.
« Non, pas du tout. Crois-moi, » demanda n'importe qui, « je suis vraiment stupide. »«
Pourquoi est-ce que tu dis ça ?»«
Parce que c'est vrai. Regarde-moi. Regarde cette maison. C'est le chaos. Et tu sais... »
Elle hésite en repensant à des souvenirs douloureux. Les gens de l'aide sociale à l'enfance sont venus me voir. Deux fois. Il la regarde avec des yeux ronds.
C'est vrai.
Une fois à Londres, pour Kay et Jasmine.
Une sale fouineuse, l'une des mères de l'école, avait décidé que je ne les élevais pas bien et qu'il y avait des gens chez moi qui n'auraient pas dû y être. Ils arrivaient souvent à l'école en retard le matin parce que je ne parvenais pas à me réveiller assez tôt, parce que j'étais hyper déprimée. Parfois, il n'y avait rien à manger à la maison et je les envoyais à l'école avec des repas limites. Voilà. Et tout ça, c'était vrai. J'étais une mauvaise mère. Je les adorais, mais je m'en occupais très mal. Après, j'ai compris. J'ai tout changé. Je suis allée chez le médecin, j'ai commencé un traitement. Je me suis débarrassée de certains de mes amis. J'ai conservé les meilleurs, rangé l'appartement. Et j'ai pu garder mes enfants. Mais je suis passée à deux doigts de la catastrophe, c'était... Elle ferme les yeux et avale difficilement sa salive. C'était le pire moment de ma vie. Mais on s'en est sorti. Et c'est là que, comme je suis vraiment, mais vraiment débile, je me suis retrouvée enceinte. Encore. D'un type qu'aucune femme n'aurait approché. Un vrai malade. Ça tombait vraiment à pic, pile quand ça commençait à aller mieux. J'ai fait une dépression périnatale. J'avais mon nouveau bébé et un mec macho possible qui disait à mes enfants ce qu'ils devaient faire, porter, penser. Elle marque une pause et dégage ses cheveux de son visage. On s'est enfui. Je n'ai rien dit au père de Romaine. J'avais tout préparé, continue-t-elle en désignant la maison. J'ai attendu qu'il soit à l'hôpital pour sa cirrhose, parce que, bien sûr, il était alcoolique. Après, il a arrêté de boire assez longtemps pour obtenir le droit de voir Romaine régulièrement. Et il l'a kidnappée. Sa voix tremble. C'était un vrai cauchemar. Mais il est parti en Australie. Il a trouvé une autre bonne femme, et il a eu un gosse avec elle. Ce qui est une vraie bonne nouvelle pour nous. Les choses se sont calmées, jusqu'au jour où la maîtresse de CP de Romaine a décidé qu'elle était une enfant négligée. Non.
Si. Parce que, parfois, je ne lui brossais pas les cheveux le matin. Parce qu'elle avait des taches sur son pull. Parce que j'étais en retard pour aller la chercher le soir. Parce qu'elle se faisait dessus et pleurait. Et parce qu'un jour, elle a parlé d'un film d'horreur à l'école qu'elle avait regardé en cachette dans la chambre de Kay un soir où je n'étais pas là. Parce que je n'étais pas assez présente. Parce que je suis une mère de merde. Les services sociaux n'ont jamais rien fait, mais ils sont venus à la maison. Je leur ai raconté que son père l'avait enlevée. Tu sais qu'il l'a gardée dans une chambre d'hôtel pendant presque 2 semaines, et qu'il l'a laissée toute seule la moitié du temps alors qu'elle avait à peine 3 ans? Quel connard. J'étais furieuse contre l'école, contre cette pauvre petite maîtresse avec son putain de crucifix autour du cou qui ne savait rien sur rien. Dès que j'y allais, je faisais un scandale. J'étais devenue cette mère-là. Celle qui les faisait tous flipper et dont ils parlaient en réunion. Elle s'arrête et se prend la tête dans les mains un instant. C'était vraiment pas facile. Pas du tout. Je voulais vendre la maison et changer de ville. Peut-être aller vivre dans les ébris d'extérieur. Le plus loin possible de tous ces gens-là. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Derry. Elle a tout remis à l'endroit. Elle s'est occupée de l'école pour moi. Elle m'a aidée pour que la dyslexie de Romaine soit reconnue. Elle a tout arrangé. Je crois que j'aurais pas tenu le coup sans elle, franchement. Pendant tout ce monologue, Franck l'a fixée sans presque rien dire.
Je te trouve encore plus incroyable maintenant.
Je ne t'ai pas encore dit que j'ai couché avec Barry.
Barry?
Tu sais, le locataire louche qui offrait des chocolats volés à Romaine. Celui qui est parti sans payer ses 2 mois de loyer en me laissant son chien. Je t'ai donné sa veste sur la plage.
Il hoche la tête.
Eh bien, j'ai couché avec lui, alors qu'il était vraiment dégueulasse. Mais je l'ai fait quand même, parce que je suis conne. J'ai toujours été, et c'est pas prêt de changer.
Et moi, du coup, tu me places où dans tout ce tissu de conneries?
Plus haut, je dirais. Très haut même. Imagine, si les services sociaux ou les maires de l'école en entendaient parler. J'accueille un type qui ne se souvient de rien, sauf d'avoir peut-être tué quelqu'un. Dans mon studio et dans mon lit.
Elle secoue la tête et rit durement.
Au moins tu n'es pas mariée. Ça, ça aurait été le putain de pompon.
Franck pose ses mains sur les épaules d'Alice et la regarde droit dans les yeux. Elle a l'impression d'être une plaie à vif. Elle pourrait continuer. Les coups d'un soir. Les week-ends perdus. La dégradation du rôle de mère. Elle fait toujours des erreurs. Mais ça suffit pour le moment. Elle lui a dévoilé le pire d'elle-même. Elle ne veut pas le quitter demain en lui donnant une fausse idée de qui elle est. On n'est pas une sainte parce qu'on accueille des chiens abandonnés ou des étrangers perdus. S'il découvre qu'il n'a rien fait de mal, qu'il est vraiment un prof de maths banal avec un chat nommé Brenda et qu'il peut reprendre sa vie où il l'a laissée, s'il décide de la revoir, elle veut qu'il sache tout. Il ne peut pas revenir ici en s'attendant à trouver un ange, quelqu'un qui pourra le sauver, parce qu'elle n'est capable de sauver personne. Il caresse son visage, ses joues, ses pommettes. Elle attend qu'il parle, mais il ne dit rien. Il passe ses mains dans sa nuque et lui embrasse le front, longuement. C'est un baiser de rédemption, comme s'il la délivrait de ses péchés, comme s'il les aspirait. Elle se sent faible et douce. Elle lui prend les mains. Ils entendent du bruit derrière la porte de la cuisine. Un chien et un autre chien, puis une enfant.
« Il est l'heure de manger ou quoi ?»
demande Romaine.
« J'ai faim !»
Alice lâche les mains de Franck et se recule sans le quitter des yeux. Elle se tourne vers Romaine.
« C'est normal. Tu n'as mangé que des patates ce midi. »«
Je peux te faire un bagel si tu veux, » propose Franck.
Romaine écarquille les yeux.
« Oui, s'il te plaît. Mais n'oublie pas de le couper avant. »«
Je n'oublierai plus jamais grâce à toi. »«
Je m'en occupe. »
intervient Alice en ouvrant la boîte à pain.
« Assieds-toi, Franck !»«
Non !»
lui répondit-il en attrapant le pain et en commençant à le couper.
« Je vais le préparer. Ça me fait plaisir, vraiment. »
Romaine attrape le morceau de carton.
« C'est toi qui as dessiné ça, Franck ?»«
Oui, c'est lui qui a fait ça, mon cœur. »«
C'est trop beau! Tu pourras dessiner pour moi? Tu peux me dessiner et dessiner maman ?»
« Avec plaisir. Je termine ça et je fais ton portrait. »
Alice est adossée au plan de travail, les bras croisés, et elle observe cet homme dans sa cuisine qui prépare à manger à sa fille, avec un chien à ses pieds qui attend, plein d'espoir, qu'un morceau de jambon ou de poulet tombe au sol. « Sa place est ici, » se dit-elle soudainement, catégoriquement. « Peu importe qui il est, ce qu'il a fait, sa place est ici. » Tout à coup, elle se rappelle que, le lendemain, elle l'emmènera au commissariat et qu'ils ne se reverront probablement jamais. Elle se retourne vers le frigo et sort une bouteille de vin.